Écrivain, historien du cinéma et producteur de nombreuses émissions sur France Culture, Philippe Esnault, disparu en 2008, fut à l'origine de Mémoire du cinéma français, un fonds constitué d'archives de toute nature, déposé par des professionnels de la radio, du cinéma et de la télévision. C'est de l'une des deux collections de ce fonds, les archives sonores du cinéma français, que provient l'archive que nous allons entendre dans son intégralité. L'enregistrement d'un entretien qu'accordait Marcel Pagnol au journaliste Claude Gauter en vue de la rédaction d'un article. Dans une atmosphère des plus détendues, Marcel Pagnol y était notamment interrogé sur le reproche qui lui avait souvent été fait de produire avec le cinéma du théâtre filmé. C'était là l'occasion pour Pagnol de développer sa conception du cinéma en évoquant l'époque idéale où tout à la fois auteur, réalisateur et producteur, avec ses propres studios, son propre laboratoire et sa propre salle de cinéma à Marseille, il signait ses films en toute liberté, avec autour de lui une véritable troupe de comédiens et de techniciens. Un enregistrement passionnant, au fil duquel Marcel Pagnol livrait avec plaisir moult anecdotes et souvenirs de ses tournages et duquel perçait à tout moment le goût, l'amour qu'il avait des comédiens en parlant de Rému, de André Lefort, de Fernandel, d'Édouard Delmont, de Marguerite Moreno, de Raymond Pellegrin et de beaucoup d'autres. Les archives sonores du cinéma français, Marcel Pagnol, interrogé par Claude Gauter en 1969.
La première question est très simple, je pense qu'on a déjà dû vous la poser, mais il est difficile de ne pas vous la poser. Vous avez eu toujours beaucoup de polémiques au sujet du cinéma, du théâtre filmé, etc. On ressort quand même presque toute votre œuvre cinématographique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous rend justice? Est-ce que pour vous c'est un peu une revanche? Ou enfin, je ne sais pas, voyez dans quelle direction?
Si vous avez lu la cinématurgie de Paris, vous avez vu sur quel ton on me parlait.
Oui, oui, l'insulte. Oui.
Simplement parce que je disais, il faut que le film parlant parle. Et au commencement était le verbe. Oui. Pour moi, les images sont l'illustration du texte, mais l'œuvre dramatique elle est dans le texte. Les images, il faut qu'elles mettent en valeur l'œuvre dramatique, mais en elles-mêmes, genre j'avais dit même un jour dans un moment de colère, j'avais dit la bonne photographie est autorisée. pourvu que ça ne dérange pas le texte, pourvu. Oui. Vous savez, autrefois, le type du muet, tout à coup, il faisait un gros plan d'une fleur, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il était très joli. Oui. Et ça coupait tout le mouvement. Ils attachaient beaucoup d'importance à la qualité de l'image et je crois que le public s'en fout complètement. Oui. Évidemment, quand il y a de très belles images, il y a de belles images, c'est ennuyeux. Et puis ces belles images gênaient beaucoup les acteurs. Parce que l'opérateur était très difficile, il faisait son éclairage et disait on peut aller que jusque-là. Et alors on faisait des plans de 60 secondes. C'est-à-dire que moi j'ai toujours fait tourner mes hommes. Et il me disait jusqu'où on va? Je disais, on va jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. De toute façon, s'il y a des passages mauvais, ça ne fait rien. Il faut laisser le mouvement de la scène. Un comédien, quand on fait arrêter tous les trois pas, ne peut pas jouer la comédie.
Vous allez jusqu'à la bobine.
Ah oui, dans Fanny, il y a une bobine entière.
Et je veux dire, d'ailleurs, ça confirme vos théories. C'est que, je pense, c'est de l'amour des acteurs qui vous aide ça. Ça venait du théâtre, enfin, où on filme une scène en entière. Et vous arrivez à une notion essentiellement cinématographique, quelle plan séquence. Et maintenant, on se gargarise du plan séquence quand quelqu'un fait un plan de 8 minutes, alors que finalement, vous l'avez fait dès le départ, ou vous cherchiez à le faire.
J'ai fait des prises de vue de 11 minutes. Et avec une dizaine de plans, mais sans couper,
oui.
Avec des rails simplement. Vous savez, en général, je mettais quatre rails en croix, et je mettais deux appareils, je tournais une fois comme ça et comme ça, et puis une fois comme ça et comme ça, en m'approchant des acteurs, en prenant le gros plan dans le mouvement, n'est-ce pas?
Mais vous ne tournez qu'avec une caméra, je crois, parce que, par exemple, lui, Renoir faisait un peu ça, mais il mettait deux ou trois caméras.
Ah, moi j'en mets souvent deux.
Oui, aussi.
J'en mettais souvent deux. Quand on a tourné un sermon de Wilbert, 28 minutes.
Oui.
J'avais mis deux caméras, on a fait trois prises de vue, et il a fait ça entre 10h et midi.
Oui.
Le sermon de Wilbert qui est dans Malon des Sources, oui. Où il est admirable d'ailleurs, oui. Wilbert, il est vraiment très bien. Et ce serment a eu une drôle d'influence. C'est qu'un jour, le père abbé, l'abbé général des Prémontrés, qui s'appelle Norbert Calmels, que j'avais connu en Tournelles de Montmoulin, vient me voir ici, il me dit, je vais faire un livre de vos sermons. Je lui dis, mes sermons, vous avez vu ça? Il m'a dit, il y en a dans chacun de vos films. Et il a fait un recueil de sermons, Marcel Pagnol, je suis baptisé, avec une préface de lui, une préface de théologien, qui dit que c'est ça la vraie religion, enfin que c'est ça qu'il faut prêcher, etc., etc. Alors maintenant, je suis prêt à vous bénir, si vous voulez, parce que je suis presque un des pères de l'Église.
Mais justement, je voulais, en voyant vos films, là, je ne sais pas si vous êtes un père de l'Église, mais je crois qu'il y a, ni même si vous êtes Shakespeare, mais il y a vraiment chez vous le lait de la tendresse humaine. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est la bonté générale de votre œuvre, et il y a très peu de méchants. Il y a des méchants dans Manon, il y en a dans Geoffrande, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit vraiment méchant. Et Iactopas, finalement, qui est une pièce méchante, qui est un film méchant. Mais je veux dire, il y a vraiment une bonté générale dans tous vos personnages, une confiance.
Vous savez, les méchants ont leur moment de bonté. Je n'ai jamais connu de saint parfait, je n'ai jamais connu de méchant parfait non plus.
Oui. Même...
J'ai fréquenté à Marseille, sur le port, des gens qui étaient des voyous et qui étaient des pères de famille et des maris admirables. Et des amis fidèles.
Oui.
Moi, je n'ai jamais vu le méchant à l'état pur.
Oui, mais en fait...
C'est fatigant d'être méchant, oui. Aussi.
Mais en fait, je crois qu'il y a un seul de vos films qui est vraiment méchant. Enfin, c'est pas méchant, puisque c'est une conversion un peu à la méchanceté ou au cynisme, au réalisme. C'est Topaz, quand même.
Oui.
Oui,
mais c'est fait gentiment.
Oui.
Enfin, c'est fait sans méchanceté féroce. Quand j'écrivais Topaz... J'avais pensé à l'appeler Gangrène. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Parce que le pauvre Tamise, à la fin, va se mettre du côté de ton bras. Ouais. Pas, c'est-à-dire, ça gagne.
C'est la contagion.
Le père Antoine m'a dit, vous êtes fou, mon pauvre ami. Gangrène, mais les gens ne sortent pas après dîner pour aller voir Gangrène, ni Cancer, n'est-ce pas?
Antoine vous a beaucoup soutenu, je crois.
Alors, oui, c'est lui qui a porté la pièce à Max Moret.
Oui. Mais je voulais vous demander, quelle est, d'après vous, la bonne version de Topaz? Je vais vous donner, parce que il y a les versions comédiens. Si vous avez déjà remarqué, dans le livre de poche, il y a la version Lefort. Alors finalement, il y a eu la version Jouvet-Gasnier, que personnellement, je trouve pas très bonne. Enfin, ils ont beaucoup supprimé le texte, et Jouvet, je trouve assez mauvais.
Ils ont supprimé beaucoup, beaucoup de choses.
Et puis Jouvet est assez mauvais. J'ai pas vu Arnaudy, mais il est largement inférieur à Fernandel, qui est bien meilleur. Mais je voulais savoir, de la version Lefort, si vous permettez, de la version théâtre, ou la version Topaz de 52 de vous, quelle est celle que vous préférez?
Lefort.
Ah bon, c'est
Lefort,
comme acteur c'est... ou comme même vous croyez que c'est
lui? Tous, il y avait Lefort, il y avait Paulet, il y avait Marcel Vallée, il y avait des types, et puis ils avaient joué Topaz quelque chose comme 850 fois. Alors si moi j'avais tourné Topaz, j'en aurais fait un très bon film. Mais ils l'ont fait tourner par un opérateur français venu de Hollywood, qui a arrangé le texte, n'est-ce pas? Il y avait le scénario department à la Paramount là-bas.
Oui.
Le scénario department, il trafiquait tous les textes. Alors la version de Jouvet aurait pu être bien meilleure.
Ouais. Mais notamment, vous, dans votre version avec Fernandel, vous avez quand même développé le personnage de Mademoiselle Muche, qui a complètement disparu chez Jouvet.
Oui, complètement. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ils n'ont pas voulu que je m'en occupe.
Mais pourquoi vous n'avez pas tourné avec Lefort après, puisque vous avez pris
Lefort était mort.
Ah, il est mort entre eux.
Oui.
Il est...
Paulet, il est dans la version Jouvet, Paulet, il est excellent.
Oui.
Lefort est un comédien d'une très grande finesse, vous savez. Et ça a été son seul grand succès. Je veux dire que à chaque pièce, Lefort avait un rôle à côté, et toute la presse disait, alors quel comédien merveilleux, mais quand est-ce qu'il aura un rôle principal, n'est-ce pas?
Oui.
Et ça a été son premier rôle principal, il a été éblouissant. Il avait beaucoup d'esprit.
Oui, Michel Simon m'a dit que c'était le comédien d'avant-guerre qu'il préférait.
Ah oui, c'est un comédien d'une délicatesse, de l'esprit, d'une discrétion. Il faisait des effets monstres en faisant presque rien.
Oui.
Il était sincère, n'est-ce pas? Il était un peu vieux pour jouer Topaz, il avait 50 ans. C'est ennuyeux, parce que si Topaz est dans la pension Muche depuis 30 ans, il n'en sortira jamais.
C'est ça, oui.
N'est-ce pas? Pour moi, Topaz était un type de 25 ans, 26 ans. D'ailleurs, le comédien qui l'a le mieux joué de beaucoup, c'est le petit Raymond Pellegrin.
Oui.
Nous étions à Monaco pendant la guerre, et il y avait Paul Abran qui était réfugié là-bas. Le directeur de l'Odéon, je le connaissais, Paul Abran, c'était mon grand ami. et il languissait, il a été presque tombé malade de ne rien faire, de ne plus faire de théâtre. Et alors un jour, je dis à Marcel Sablon, qui est le directeur du théâtre, tu sais pas ce qu'on va faire, on va monter Topaz, et ça va occuper Paul, on va lui faire la mise en scène. Et Sablon m'a dit, donc j'ai justement un petit comédien là qui a 19 ans. Est-ce que ça te gêne si on lui essaye dans Topaz? Qu'est-ce que ça fait? On est à Monaco, c'est la guerre, n'est-ce pas? Pourquoi pas? On l'a joué avec Pellegrin qui avait 19 ans. Il a été admirable. C'est le commencement de sa carrière. D'habitude, on joue les pièces à Monaco 3 jours. On l'a joué pendant presque un mois. Et il y a des gens qui sont allés 3 fois de suite pour voir Raymond.
Oui.
C'est un admirable comédien avec Pellegrin. Il est en train d'ailleurs de reprendre une très belle carrière.
Oui.
Il est dans une pièce de Sartre qu'on joue,
oui.
L'engrenage. La pièce n'est pas extraordinaire, c'est pas la meilleure de Sartre.
Mais
Raymond, il est très remarquable.
Je voudrais vous parler un peu maintenant, si vous le permettez, du Spoons.
Ah.
Que moi j'ai trouvé, enfin que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé absolument extraordinaire.
Vous avez vu jouer ça par Ellis et Fernand.
Comment? Ah non, il n'y a pas Ellis dans le film.
Ah, dans le film.
Le film.
Ah non, le film c'est Chopin.
Oui, oui, ça.
Et puis Fernand a 30 ans.
Oui, c'est ça.
Ah, c'est admirable, Fernandel.
D'où est venue l'idée, vous savez, de ce format numéro, tout condamné à mort à la tête tranchée?
Ah, je vais vous le dire, mais vous ne pourrez pas l'écrire.
Ah bon?
Vous allez voir. Attends, je vous explique pourquoi. Lorsque j'étais à Condorcet, et je sortais le soir par la rue du Havre, et je descendais au métro Nord-Sud. Vous savez, il y a une grande place souterraine, là, avec des guichets partout. Et une foule, le soir à 6h ou 5h30, une foule considérable. Alors, comme je descendais les escaliers, cette place était absolument remplie, et au bout, là-bas, je voyais un type qui était contre le mur, comme ça, l'autre qui lui parlait furieusement et qui partait. Et ce type restait là. Et les gens commençaient à ne plus circuler et à écouter ce type. Et ce type disait simplement ceci, « Trou du cul ?» L'autre avait appelé « Trou du cul ». Il disait « Trou du cul ?» Trou du cul. Il a joué tous les sentiments en répétant « Trou du cul
ah, ». Oui.
Et il est parti. Je me dis, c'est ça le théâtre.
Oui.
C'est ça l'art du comédien. Alors j'ai voulu faire dire ça à Fernand, et il l'a fait d'une façon étonnante.
Oui. Non, c'est parce qu'il est éblouissant, parce qu'il est à la fois extraordinaire et très mauvais. Enfin, comme il doit être, il est un Spoons, et en même temps, il est Fernandel. Donc
ah, oui,
un
oui,
grand
oui,
comédien
ah,
et
oui.
un Spoons.
Ça ah, il était brillant.
Oui. Mais c'était un portrait robot de mythomane, ou c'est un... Vous en avez connu des Spoons ou...
Oh oui, oh mon Dieu. J'ai connu qui venait aussi de Biancourt, un type qui arrivait avec un faux contrat que lui avaient fait les machinistes. Et un jour, j'allais voir mon ami Richebet, qui était directeur de tout ça, qui sort de son bureau, et il dit au concierge, dites donc, il y a un fou dans mon bureau, faites-le partir de suite. Le type, il avait un contrat, aussi ridicule que celui du Spoons, n'est-ce
ouais.
pas
oui. Mais d'ailleurs, c'est très curieux, parce que je pensais en le lisant, c'est un... Là, c'est autre chose, mais on retombe sur Jules Romain. Enfin, c'est plus beau comme canular que Les Copains, parce que c'est un canular extraordinaire, le contrat.
Oui,
du...
non, Les Copains, c'est bien, vous savez.
Oui, non, non, mais je veux dire, comme la façon dont il est développé, enfin, c'est monstrueux, parce qu'ils ne puissent pas comprendre que c'est un canular.
Non, ces gens-là sont comme ça, moi, je les connais beaucoup. Et ce film a eu pas mal de succès. Il passait à l'Olympia. Au bout de 15 jours, Sireski, le directeur de l'Olympia, me téléphone, me dit « Est-ce que Tino est malade ?» Je ne crois pas, pourquoi tu me dis ça? Il n'est pas venu ce soir, il est venu déjà 14 fois et ce soir il n'est pas venu. Il est venu tous les soirs, Tino. Alors je me suis dit, ben, ça marchera, c'est un film qui marchera.
Ouais. Il y a une chose qui m'a frappé aussi dans le Spoons, c'est l'éloge que vous faites de Chaplin. À un moment, il y a une réplique que j'ai notée, c'est vous dites, Charlot reçoit des coups de pied au derrière, mais Monsieur Chaplin, lui, n'en reçoit pas, il donnerait même plutôt des gifles.
Et oui, c'est
et
vrai.
Vous parlez de Saint-Charlot. Je veux dire, maintenant, c'est devenu... presque une tarte à la crème de la critique, de parler de Saint-Charlot, mais dès 1938, vous avez été le premier à en parler.
Alors oui, parce que j'admire beaucoup Chaplin, oui. C'est un grand comédien.
Mais je veux dire, quand vous dites Chaplin, c'est les Charlots ou les films qu'il a fait après? Vous savez qu'il y a une controverse aussi, où on dira Charlot, c'est merveilleux, mais Chaplin, vraiment, il a mieux fait de se taire, alors que toute la jeune critique dit Charlot, ça a peut-être vieilli, mais Monsieur Verdoux, mais Le Dictateur, mais Limelight, c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment ses testaments, il
mais,
dit tout
mais
ce qu'il
évidemment,
a... Ouais.
Mais évidemment, évidemment, il a été un peu gêné dans le langage, au départ.
C'est ça, oui.
Parce qu'il était un mime admirable. Et il y a beaucoup d'acteurs de cinéma qui n'ont pas pu faire comme lui, qui étaient de grandes vedettes des muets, et qui n'ont jamais pu parler juste. N'est-ce pas?
Donc il a eu énormément d'hésitation, puisqu'il a commencé dans les temps modernes, mais enfin, il ne parlait pas vraiment. C'était Et c'est vraiment dans Le Dictateur, à la fin, le discours. Et à mon avis, qui est la naissance de la parole. Parce que s'il a vraiment pris la parole à ce moment-là pour faire ce discours, c'est qu'il avait vraiment quelque chose à dire.
Quelque chose à dire, oui. Mais... D'ailleurs, maintenant, je ne sais pas pourquoi il ne tourne plus.
Oui.
Il n'est pas si vieux que ça.
Vous avez vu La Comtesse de Hong Kong?
Non, je n'ai pas vu ça.
C'est très beau, très émouvant. Beau. Oui.
C'est passé, c'est pas resté longtemps.
Ah, ça a été massacré par la critique. La critique s'est déchaînée en Angleterre, en France et tout.
Ouais. C'est mystérieux, nos affaires. Et la réponse du public est toujours imprévisible.
Il y a un personnage qui m'a frappé aussi dans le Spoons, c'est le personnage du producteur, les yaourts
Meyerbaum. Oui, qui était joué par Bélière.
Léon Bélière, oui.
Il était très bien, Bélière. Ouais. Et alors, on lui avait fait un procès verbal, parce qu'on avait marqué sur les murs, nous tournions dans nos laboratoires, dans la cour des labos, et alors sur les murs, on avait mis « Studio Meyerbaum ». Il est arrivé les gens du fisc qui ont dit « Moi, je veux voir M. Meyerbaum ». Alors, on leur a fait la blague, on disait « Le voilà ». Alors, ils lui ont dit « Mais dites donc, vous n'avez pas déclaré cette inscription, vous devez payer ça et ça ». Mais hier, on disait « Monsieur, je ne le savais pas ». Enfin, finalement, on a vu le coup tous ensemble, on a bien rigolé.
C'est que les légendes du fisc devenaient des schpouns.
Oui. Ah, c'était leur devoir, n'est-ce pas? On doit déclarer ce qu'on peint sur les murs, n'est-ce pas? C'est toute chose de publicité, donc on peut porter des timbres, enfin. Oui.
C'est frappant. Enfin, est-ce que vous l'avez écrit comme ça, le producteur, ou c'est d'après, là aussi, des modèles que vous avez pu rencontrer? Parce qu'il y a une chose qui est frappante aussi, c'est que la première scène, il est présenté pas de façon antipathique, mais Meyerbaum, enfin, disons qu'il a des caractères assez juifs et tout, et vous lui faites faire une tirade en disant « Je sais que je suis le juif, l'étranger, je suis seul, mais faites-moi rire, je suis comme vous » et tout ça. Moi, ça m'a fait penser à Shylock, enfin, presque, vous savez.
Oh bien, vous savez, il y avait beaucoup de producteurs à cette époque qui était de ce genre-là, qui parlait français avec un fort accent,
oui.
N'est-ce pas? Nous allons avoir eu Deschmeister, qui a été notre président, c'était un producteur de premier ordre, Desch. C'était un gros type comme ça, avec un fort accent, mais beaucoup très amical, très charmant. Et il a fait de beaux films. Je crois qu'on va le passer, le Spoons aussi. Oui, on va le passer.
Oui.
On va le passer. Et celui qui jouait le frère de Fernandel, qui s'appelait Castagnier, et c'était l'opérateur de prise de vue.
Ah, oui. On le voit souvent, d'ailleurs, dans vos films.
Non, mais maintenant, non, parce qu'il est opérateur de prise de vue.
Ah,
il a joué la comédie comme ça. Il était à mon laboratoire, employé. Je lui ai dit, tiens, toi, tu vas jouer le frère de Fernandel. Et il disait, mais monsieur, je ne peux pas. Je lui ai dit, mais tu lui ressembles. Alors, il a été très, très bien, d'ailleurs.
Je voudrais vous demander... Vous êtes à peu près l'exemple unique dans le cinéma français d'une école régionale. Je veux dire, il y a eu l'école provençale, vous avez vraiment fondé une véritable compagnie. Comment se fait-il que ça n'ait pas inspiré, si vous voulez, d'autres écrivains régionalistes, si vous voulez, ou qui auraient pu chanter leur province, et en même temps, personne n'a repris le flambeau derrière vous, je crois.
Vous savez, parce que je m'en suis aperçu à la longue, c'est une drôle d'affaire de mener de front tout. D'avoir les studios, les laboratoires, les agences de distribution. J'avais tout ça à ma disposition, oui. N'est-ce pas, si bien que le film commençait à mon porte-plume et finissait sur l'écran de ma salle de Marseille, et sans que je fasse appel à personne,
oui.
N'est-ce pas? Et ça me permettait de faire un brouillon de film. C'est-à-dire que je construisais tous les décors avant de tourner. J'avais trois plateaux, ça me suffisait. Le reste, c'était des extérieurs. Mais ces décors, je les conservais jusqu'à la fin du montage. Et quand on a fait monter le film, je le projetais dans ma salle, à l'improviste, comme ça. J'allais écouter le public, et je refaisais des scènes qui me paraissaient n'avoir pas marché. J'appelais mes comédiens, ils disaient « Reviens, il y a trois scènes à refaire. » Mon décor était là, vous comprenez? Puis j'avais mes labos, c'est-à-dire qui étaient à 100 mètres des studios. Pendant qu'on tournait, dès qu'une bobine était finie, on l'a porté vite au labo, et une demi-heure après, le type du labo téléphonait à l'opérateur, il disait « Fais attention, tu as un projecteur déréglé. » Alors on refaisait la scène. Vous comprenez? Tandis qu'ici à Paris, quand vous louez un studio à 150 000 francs par jour, on vous dit « Faites attention d'avoir fini mardi à minuit parce que du vivier arrive. » Et hop, les décors s'envolent, tout s'en va. D'ailleurs, Chaplin a fait des films en Iran. Pourquoi? Parce qu'il tournait chez lui. Il avait tout intérêt à refaire les scènes qui ne lui plaisaient pas, ça coûte pas tellement cher.
Mais ça, vous auriez, évidemment, c'est un système de production qui est difficile à mettre sur pied, mais vous auriez à le conseiller. Vous pensez que c'est le système de production idéal?
Ah, c'est le système idéal, bien sûr. J'avais d'ailleurs acheté une très grande propriété qui s'appelle la Busine, qui est à Marseille, avec un grand château. Je voulais y faire la cité du cinéma. C'était tout à fait au début de la guerre. Et alors, quand la catastrophe est arrivée, il fallait, pour acheter un boulon, il fallait remplir 3 dossiers, n'est-ce pas, les bons matières, ceci, cela. Voilà. Il fallait que je construise des studios dans les prairies qu'il y avait là-bas et que je fasse un hôtel dans le château pour les acteurs, pour les techniciens, avec 2 restaurants. J'avais préparé tout ça. Puis alors, j'ai dit, eh bien, la guerre va durer encore un an, nous ferons ça après. Puis la guerre a duré 4 ou 5 ans. Et puis je me suis dit, je suis trop vieux maintenant pour me lancer dans une affaire pareille encore. Il vaut mieux que j'écrive. Oui. Donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps.
Oui.
Vous comprenez? Et ça m'a fait gagner d'autre part, parce que j'écrivais à loisir, personne tripotait mon texte, comme il arrive souvent. Vous savez, avec des très beaux romans, ils ont fait des navets monstres.
Oui.
C'est arrivé assez souvent. Je ne l'avais pas fait pour gagner de l'argent, je l'avais fait pour être mon maître, libre. Et j'habitais dans les labos. J'avais un petit appartement dans les labos et un autre dans les studios. Et nous avions un restaurant, et je déjeunais tous les jours avec mes hommes, n'est-ce pas? Et quand on tournait, avec les comédiens, les machinistes, tout le monde à table, à la même table, et on parlait, on disait cet après-midi, on va faire ça et ça, toi tu feras ça, lui il fera ça. On discutait le coup comme ça, et j'écoutais les conseils de mes machinistes.
La participation.
Souvent, mais parfaitement, la participation au travail véritable. C'est pour ça que mes films ne me coûtaient pas très cher. Vous comprenez, je n'avais pas à payer l'auteur. Je n'avais pas à payer le metteur en scène, je n'avais pas à payer le dialoguiste, c'était moi, tout ça. Et les machinistes jouaient la comédie. Quand j'avais besoin de figuration, je faisais descendre l'électricien, mais je disais, voilà, c'était des gens très bien, vous en direz dans le Schpoutz, qui sont des machinistes, et dans la femme du boulanger aussi.
En fait, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on vous a reproché, c'est de tourner des films pas chers et qu'on rapportait beaucoup.
Voilà, alors... ça ne leur plaisait pas. Et puis, ils parlaient trop. Alors, comme eux ne savaient pas les faire parler... Puis vous savez, un film muet, c'était, quand il réussissait, c'était une merveille. On jouait aussi bien en Chine qu'au Japon. Tandis que le film parlant, son marché était considérablement rétréci. Et on avait un emmerdeur terrible qui était le type du son. Parce que les premiers appareils étaient d'une faiblesse, n'est-ce pas? Ça devenait des microphones tout brusquement, n'est-ce pas? Et puis l'opérateur était toujours gêné par ce microphone qui avait 1 mètre de haut. Parce que comme il était très faible ce micro, il ne pouvait pas envoyer des courants à plus de 4 mètres ou 5 mètres. Alors, il y avait le pré-rempli dans le micro. Alors, le micro était comme ça, des dimensions d'un tuyau de poêle. On avait toujours son ombre ou le micro lui-même dans le cadrage. Il y avait la querelle avec l'opérateur continuel. Il mettait à l'œil ton, il disait, dis donc, enlève un peu le saucisson, je l'ai en plein. Et où veux-tu que je le mette? Mets-toi au cul si tu veux, en fait. Ils se disputaient sans arrêt.
Est-ce que vous avez vu, parce qu'il y a eu un film marseillais, si on veut, récemment, enfin du moins qui a été tourné à Marseille récemment, c'est La Vieille Dame Indigne de René Alliot.
Non, je ne l'ai pas vu, celui-là, j'étais pas là.
Je voulais vous demander votre point de vue de Marseillais sur le...
Qui est-ce qui a fait ça?
René Alliot, l'ancien décorateur de Planchon, il a tiré ça d'une nouvelle de Brecht. Mais enfin, c'est situé à Marseille, et il y a la question de l'accent, évidemment, c'est
assez... Oh, mais je vais aller le voir.
Oui. Ah oui, mais il est...
On doit le jouer encore, ce film, parce que j'ai entendu dire beaucoup de bien.
Oui, mais il est remarquable, mais il est peut-être pas marseillais. Mais,
on s'en fait rien.
Non, mais je veux dire, d'ailleurs, situé à Marseille. Je voulais vous demander, souvent, on a toujours dit, et c'est vrai que l'accent, chez vous, c'était primordial. J'aime énormément Regain, mais la diction de Gabriel Gabriot me gêne un peu.
Et moi aussi.
Évidemment, je me dis, c'est un homme de la montagne, il parle peut-être pas pareil. Mais...
Oui, il a un petit fond d'accent parisien qui est un peu gênant. Il est un peu trop distingué quand il parle.
Il y a Moreno aussi, donc.
Moreno, ouais. C'est admirable. Elle. Dans Regain, il y a Moreno, elle est admirable. Il fallait monter... là-haut, au village en ruine, parce que nous habitions dans une ferme qui était dans le vallon. Une ferme en ruine que mes maçons avaient reconstruite. Il y avait un dortoir pour coucher là, enfin. Et alors, pour monter Marguerite, on avait fait une chaise à porteur, superbe, avec 4 machinistes qui montaient Marguerite là-haut à l'église. Alors, c'était une femme merveilleuse, Marguerite. Et elle a eu son succès très tard, parce que d'abord, elle voulait être Sarah Bernhardt. Elle jouait la tragédie, elle disait des poèmes. Et le jour où Mirande a fait un film qui s'appelait Un trou dans le mur, et qu'il a donné un rôle comique, pof, elle est partie d'un seul coup, Marguerite, mais très tard. Elle avait au moins 60 ans quand ça a commencé. Même plus que ça.
Elle est d'ailleurs la prière aux étoiles aussi, qu'on a jamais vue.
On n'a jamais vu parce que j'ai été obligé d'en détruire une bonne partie, parce que les Allemands voulaient me prendre le film et le distribuer eux-mêmes. Alors, comme j'avais eu quelques petits accidents de pellicule, car la pellicule n'était plus Kodak, c'était Lumière qui en faisait tant qu'il pouvait, mais enfin, ça ne valait pas Kodak. Nous avions eu des boîtes où les perforations n'étaient pas bonnes, et alors l'image dansait sur l'écran. Alors j'ai dit aux Allemands, je ne peux pas vous le donner parce que je ne peux pas le sortir. Ils ont dit, bon, alors détruisez-le. Alors, à coup de hache, j'ai fait détruire devant un huissier, pour leur dire que c'était vrai, les quelques bobines qui étaient de travers, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas fini le film, je me suis dit, je le finirai après la guerre. J'avais fini le premier film, il devait y en avoir trois. Et puis, tout ça a disparu. J'en avais à mon blocos, il doit rester quelques boîtes qui traînent. Ça n'a jamais été fini, jamais projeté.
Mais pourquoi on les verrait ? Vous n'essayez pas de les voir ? Enfin, c'est peut-être...
Peut-être je pourrais le refaire un jour, oui. Ah. Voilà, les lustres sortiront.
C'est la folle, non ?
Comment vas-tu ?
Ça va, enfin. Vous allez le faire paraître, je crois, en 69, la prière aux étoiles, ou peut-être plus tard, non ?
Peut-être. Donc, ce que je vais tourner, je crois, c'est le château de ma mère. Oui. Je voudrais le tourner au mois de mai-juin.
Il y a une question que je voudrais vous poser aussi, c'est pas une question méchante, mais c'est un reproche, pas un reproche, mais une constatation qu'on a fait dans vos adaptations de Giono, dans vos adaptations de Daudet, ou dans l'adaptation de Naïs Mikoulin, on a toujours dit Marcel Pagnol est parti d'un texte de 10 à 50 pages et il en a tiré 3 ou 4 000 mètres de pellicule. Alors, je voudrais que vous répondiez
Les Marseillais sont bavards, mais ça parle volontiers. Et puis, Naïs Mikoulin, ça mérite qu'on en fasse 3000 mètres. N'est-ce pas ? D'ailleurs, un roman n'est jamais un bon sujet. Ce qu'il faut, c'est une nouvelle. Oui. Ça réussit presque toujours, un film tiré d'une bonne nouvelle, ça réussit. Dans La Femme des Boulangers, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 17 pages dans le livre de Giono. Oui. Mais en fait, on peut meubler tout ça. Car au fond, ce qui est important, c'est la création du personnage. S'il y a des personnages vivants, on peut faire n'importe quoi, on peut faire 5000 mètres.
Mais vous avez parlé de Giono, vous m'avez dit tout à l'heure que je vous ai dit que je ne vous ferais pas dire de mal des gens et que vous n'en diriez pas, mais je crois qu'il y a quand même eu quelques petits conflits avec Giono. Je veux dire, vous parlez de La Femme du Boulanger, vous avez tiré 17 pages, vous en avez fait un film, et Giono lui en a retiré une pièce.
Oui.
Ce qui prouve qu'il n'était peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que vous aviez fait, ou quoi. Enfin, je veux dire.
Au commencement, ça ne lui plaisait pas.
Oui.
Alors, il a fait une pièce. Cette pièce n'a pas marché du tout. Et un jour, je lui ai dit, dis donc, ta pièce, on ne reprendra jamais. Il me dit, oh non, on ne reprendra certainement pas. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que j'en fasse une avec le film ? Il me dit, d'accord. Et alors, je lui ai donné une part des droits d'auteur, parce que je n'avais pas les droits de théâtre.
Oui.
Et j'ai fait la pièce qu'on joue beaucoup en Allemagne et que je voudrais bien faire jouer à Paris, peut-être.
Donc c'est une pièce que vous avez réécrite encore, c'est une troisième version.
Alors. Oui, au pire, ce moment-ci, on m'a demandé de publier une collection de tous mes ouvrages. Alors je revois tous ces ouvrages l'un après l'autre et je les corrige. Parce qu'il y a beaucoup, vous savez, dans le métier de cinéma ou de théâtre, il y a beaucoup d'improvisation. Une fois qu'on a mis la pièce, quand on met la pièce en scène, on ajoute, on coupe, on refait beaucoup de choses. Alors maintenant, je vais peut-être reposer, puis connaissant la carrière de chacun de ces ouvrages, et entendu le public, ça me guide pour leur donner une forme définitive pour moi, je ne veux pas dire pour l'éternité.
Oui. Mais je voulais vous demander, alors justement, comment se fait-il que vous n'ayez jamais porté à l'écran, moi j'ai pris votre... la liste de vos œuvres, et j'ai vu Les Marchands de Gloire, j'ai vu Jazz, et même alors plus récemment, peut-être Judas ou Fabien. Vous n'avez jamais songé cela, les
Mais Fabien, au contraire, je voulais en faire un film. Oui. Mais Fabien, c'est une chose extravagante. C'est la pièce qui a fait le plus d'effet de toutes celles que j'ai écrites. Et c'était un four. Oui. J'avais fait une expérience, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment une expérience, parce que le but que j'ai. Atteint n'était pas du tout celui que je cherchais. Milly Matisse, qui avait un tempérament formidable, disait en scène quelquefois n'importe quoi. Alors je lui disais, tu es idiote, tu as encore dit ça et ça et ça. Je te jure que c'est pas vrai, parce que je l'oubliais. J'ai dit, bon, ben, je vais mettre un magnétophone entre du souffleur. Tu verras ce que tu dis. Alors on a enregistré toute la pièce. Et en effet, elle a fini par en convenir. Seulement, ce que nous avons remarqué, après, mon chef de publicité a pris ses bandes et le manuscrit. Et il a noté les effets et les applaudissements. Dans Fabien, il y a 160 effets comiques. Dans Topaz, il y en a 61. Et Fabien est un four et Topaz, on le joue depuis 40 ans. Je ne me suis jamais expliqué ça. Dans Fabien, on applaudissait 11 fois pendant le jeu. Dans Topaz, on applaudissait qu'à la fin des actes. Alors moi, quand Fabien a démarré comme ça, j'ai dit, on va jouer 5 ans. Je croyais que la pièce qui fait le plus rire, c'est celle qui marche le mieux.
Oui.
Pas du tout. Pas du tout, c'est un four noir.
C'est ajouté à note sur le rire, alors.
Ah oui, oh oui, je vais ajouter un chapitre. Oui, oui, c'est. Je crois que c'est parce que tous les gens qui là-dedans sont plus ou moins des crapules, et le seul personnage sympathique, c'est une idiote. C'est une femme stupide, une grosse bonne femme. C'est peut-être ça qui a indigné les femmes. Vous l'avez pas vu, vous, Fabien?
Non, je
l'ai
pas vu.
Vous savez, c'est très simple, c'est la femme du photographe qui est grosse, énorme, qui pèse 85 kilos. Et son mari la trompe avec tout le monde. Et elle ne le voit pas. On lui dit, elle ne le croit pas. Elle le voit, elle ne le croit pas. C'est parce qu'elle l'aime. Ça a dû vexer les femmes.
Ouais. C'est un peu un bougourage féminin, alors.
Si j'avais une comédienne un peu forte, je le ferais reprendre, Fabien.
Ouais.
J'en suis une lettre hier matin d'Alain Virmont qui m'a dit, mon cher, je trouve que votre meilleure pièce, c'est Fabien. C'est un peu amer, mais c'est une pièce admirable, etc., etc. J'ai répondu, faites bien attention que ça a été un four sinistre.
Je voulais vous demander également, puisqu'on parle un peu des choses qu'on n'avait pas pu porter à l'écran, vous avez toujours dit que vous vouliez porter Bérénice et Oedipe Roi, mais je crois qu'il y a une traduction à laquelle, sinon deux, auxquelles vous tenez beaucoup, c'est votre traduction d'Hamlet,
oui.
Je crois, et les traductions des bucoliques. Ne serait-ce que pour Hamlet, vous n'avez jamais songé à le porter à l'écran, dans votre version, votre conception du personnage?
Oh non, j'ai surtout une idée que je pourrais peut-être réaliser un jour. C'est de le porter à la scène et à l'écran en même temps sur la même scène. C'est-à-dire, par exemple, le commencement, les soldats de garde. Ils seront sur l'écran avec une back projection, n'est-ce pas?
C'est ça.
Et puis, quand Hamlet va descendre, il va apparaître en scène avec la couleur. Mais ce qui est calé, c'est de régler les dimensions de l'image par rapport au personnage. N'est-ce pas que lorsqu'il s'approche, il grossisse, il vient à la caméra, et que lorsqu'il entre en scène, l'image est à la même dimension que lui, il ouvre une porte, il entre en scène. On pourrait peut-être essayer ce genre.
C'est un peu l'idée du théâtre total de Claudel, et ce que Barreau a essayé de faire avec Christophe Colomb, quand il y a les projections, personnages et tout qui...
Mais il faudrait qu'on ne s'aperçoive même pas que c'est une projection.
Ouais,
c'est en couleur, vous comprenez, oui. Qu'on ne sache jamais très bien si c'est vrai ou pas vrai. Il y a un théâtre où on pourrait faire ça, c'est au théâtre Héberteau. Parce que le théâtre Héberteau a une scène extrêmement profonde. Derrière, il y a de grandes doubles portes, et en face, il y a l'atelier de décor. Alors on pourrait projeter, et la rue appartient au théâtre, celle qui est derrière. On pourrait projeter du fond par derrière. Ça serait intéressant, en tout cas, ça serait certainement un grand succès de public.
On peut même faire une chose extraordinaire, c'est faire apparaître le spectre en chair et en os et Hamlet sur l'écran, enfin, en contrepoint, quoi. Enfin,
mais oui, mais oui, mais oui.
Oui.
On verrait le spectre arriver de loin sur les remparts. On pourrait faire Hamlet, alors vraiment le réaliser.
Oui.
Vous savez, j'ai vu une chose très curieuse. Laurie Olivier a tourné Hamlet, vous vous rappelez?
Oui.
Eh bien, moi, immédiatement, je l'ai pris dans mon cinéma que j'avais à Marseille, qui s'appelait Le Français. Ça a été un succès formidable, mais nous n'avons pas pu garder la copie, parce que, au bout de 4 semaines, il fallait la passer à un type du Vieux-Port, qui avait un cinéma sur le Vieux-Port, où il venait des Arabes, des dockers, etc. On lui a donné la copie. Il l'a joué pendant 4 mois. C'est très curieux. Il a dit qu'il ne savait pas lire. Est-il qui lançait des couteaux dans l'écran, n'est-ce pas? C'est un cinéma extraordinaire. Et bien, Hamlet a eu un succès partout. C'est le génie de Shakespeare, mon vieux. C'est que c'est bien fait, c'est que ça porte. C'est... Ah, il y a des mystères là-dedans. Moi, je disais, qu'est-ce que ça va faire Hamlet à l'écran et sur le Vieux-Port? Il va la jouer trois fois. Ouais. Pas du tout, un triomphe. Il faut dire aussi que Laurier Olivier était un grand comédien.
Et le premier amour, vous y avez prononcé ou...
Moi, j'ai toujours les textes là. Je pense le faire tourner en Amérique, parce que Willy Wyler, qui est mon ami, m'a dit, il faut absolument que je me fasse tourner le premier amour, je vais m'occuper de ça auprès des major companies, parce qu'il faut beaucoup d'argent, il faut reconstituer. Et il y a une chose qui les gêne, les Américains, ils disent, oui, mais tous ces types vont avoir des barbes. Alors, ça va être ridicule si on voit 50 barbus à la fois. Je dis, oh, peut-être qu'on pourrait truquer, enfin...
Comment se fait-il que vous n'ayez jamais édité, alors par le livre, Manon des Sources? J'entends le texte intégral du film. Ou je me trompe peut-être, parce que dans vos souvenirs, il y a un titre Manon des Sources, mais je ne pense pas que ce soit le script du film.
Ah, donc, mais c'est, Manon des Sources, c'est la seconde partie d'un très long roman qui s'appelle L'eau des collines.
Oui, c'est ça. Oui.
Vous l'avez pas vu, ça, je vais vous le donner.
Oui, déjà.
C'est un roman en deux volumes qui ont 400 pages chacun.
Mais je veux dire, le texte même de votre film, si vous voulez, les dialogues et tout ça, vous ne les avez jamais publiés.
Ah, les dialogues, oui, ils ont été imprimés à Monaco. Je les ai aussi ici, oui. Les dialogues. Oui.
Mais ils ont été dans le commerce?
Parce que... Oui, ils ont été dans le commerce, mais petitement.
Parce que ça, je pense, ça n'a pas eu la diffusion de vos autres...
Moi, je l'ai fait imprimer pour le faire vendre dans les salles.
Par exemple, c'est même pas en livre de poche, voyez, alors qu'il y en a énormément en livre de poche.
Ben, c'est que j'ai pas voulu.
Ah oui.
J'ai dit non, parce que j'avais publié L'eau des collines en livre de poche.
C'est ça.
Je vais publier le roman,
oui.
Qui est très long. Et si j'avais encore mes acteurs, je retournerais le film.
Oui.
Malheureusement, Henri Poupon, qui est admirable, est mort.
Oui.
Il en manque d'autres. Il y a Toinon aussi qui jouait, elle est morte. Je ne me rappelle pas combien il y a de morts dans Manon.
Parce que vous pensez que Manon n'est pas parfaite comme ça? Enfin, moi, je pense que c'est votre chef-d'œuvre.
Oui. C'est un film où il y a de très bonnes scènes. Aurélie, c'est admirable. Hein, quand il fait sa déclaration d'amour du haut d'un rocher, il est sensationnel.
Oui.
C'est un grand acteur, Elise. Seulement, il faut lui donner le rôle de son emploi, n'est-ce pas? Il peut tout faire. C'est un comique étonnant et il a beaucoup d'émotions.
Il y a une chose qui m'a frappé également, c'est, si vous voulez, enfin, ce qu'on découvre maintenant, avec 30 ans de recul, c'est votre parenté avec Renoir. Angèle est 34.
Oui.
Vous avez fait venir Renoir, qui a tourné pour vous, Tony, en 35. Regain est de 37, et je vous assure que le final de Regain, quand elle s'aime, très lyrique, comme si elle donnait guerre, moi j'ai pensé au final de L'Homme du Sud, que Renoir a tourné aux États-Unis en 45.
Ah.
Et je trouve que Josette Day, que vous avez tourné en 40, dans La fille du Puisatier,
oui.
Y a des plans qui m'ont fait penser à la partie de campagne que Renoir a tourné en 36, mais qui n'est sorti qu'en 46. Moi je veux dire, c'est l'interférence espagnole-Renoir, enfin si vous voulez...
Oh, parce que Jean était mon ami, je le connais depuis longtemps. Pour Tony, je venais de tourner Angèle. Il est venu, il m'a dit, écoute donc, voilà, j'ai un sujet comme ça, et prête-moi tes acteurs et tes studios. Je dis, d'accord, avec joie. Et alors, il a tourné, Tony, là-bas, avec Blavette et compagnie, avec toute mon équipe. Et nous dînions ensemble très souvent, tous les deux. Je crois même que j'ai arrangé une scène. Il m'a demandé, il m'a dit, dis donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Je lui ai dit, c'est pas fameux. Il m'a dit, tu veux me la faire? Très volontiers.
Parce que la filiation entre Angèle et Tony est très nerveuse, enfin Andrex en méchant...
Mais oui, ce sont les mêmes types.
Oui, oui, c'est
ça. Quelle est la scène que vous avez faite sur Tony?
Je m'en souviens pas. Ça se passait dans une vigne, c'est tout ce que je sais. C'est une petite conversation entre Tony et je ne me rappelle plus qui. Je pense que c'était 36 ça, ou 37. Ça fait plus de 30 ans, hein.
Oui. Mais Angèle, ça n'a pas bougé, hein. C'est formidable.
Alors, Ferlandais était magnifique.
Oui.
Fernandel était magnifique.
Delmont,
et Poupon.
Oui,
et Delmont. Bras,
oui.
Et Delmont. Oui. Quel bon acteur était Delmont. Il était parfait. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas été une grande vedette.
Oui.
Il aurait dû l'être. À chacun de mes films, on disait, vous savez le meilleur qu'il y a dans votre film, c'est le grand maigre, vous savez, celui qui joue à Médée. Et jamais personne n'a dit Delmont. C'est très curieux. Tandis qu'à lui, on disait Rému.
Oui. Même monsieur Rému.
Ben oui. Mais Delmont était sans ambition, il était calme, il était gentil, adorable. Il est mort horriblement d'un cancer du sternum. C'est une chose extrêmement rare, un cancer osseux du sternum. Il a agonisé pendant une année, le pauvre.
C'était un grand second rôle, quoi, ce qui correspond à l'Américain.
C'est ça. Il y a là, peut-être, non pas un danger de vieillissement.
Ma grand-mère m'a raconté une histoire extraordinaire. Il y a eu le choléra à Marseille vers 1890, par là. Le choléra est assez sérieux, vous savez, les gens mouraient comme des mouches. Et alors, il y avait une fille qui, tout à coup, tombe malade. Le père se met à pleurer. On la couche vite, tout ça, on fait appeler le docteur. Le docteur entre, il referme la porte. Il reste un moment avec la petite, puis il sort et il dit, c'est fini. Alors, la famille est désespérée, affolée. Il dit, ah non, elle n'est pas morte, elle a fait un petit. Alors le père a voulu la tuer. C'est une histoire civile.
Ouais. Mais c'est curieux, alors il y a eu beaucoup de choléra en province, parce que le hussard sur le toit de Giono, c'est la grande épi de choléra.
Ah, il y en a eu souvent dans le Midi, ouais. Vous savez. Mais en 90, je crois que c'était en 90, il y a eu plusieurs milliers de morts. Dans un port, vous savez, les grandes épidémies arrivent facilement. Il y a eu la peste de Marseille en 1720 qui a tué presque la moitié de la population. Mais une chose que je ne m'explique pas, je parlais de ça avec Médicus, qui est mon ami, vous savez, le type qui fait les chroniques dans François. Je lui dis, écoute donc, il arrive trois tapis d'Orient. Ils foutent la peste à 60 000 personnes. Et quand dans les rues, il y a 60 000 matelas infectés de peste, l'épidémie s'arrête. Pourquoi? C'est peut-être parce que ce n'est pas le microbe qui est l'auteur de la maladie. Ce sont peut-être des radiations souterraines, c'est peut-être des influences cosmiques, j'en sais rien. Mais lorsque le microbe est partout, plus personne n'a la peste. Comment vous expliquez ça? Il y a une histoire de la peste de Marseille dont je pourrais faire un film. Mais ça coûterait très cher et ça serait très triste au commencement. On montre la peste au début, n'est-ce pas? À Marseille, les gens qui tombent dans la rue, c'est épouvantable. Et alors, dans un petit îlot, il y a des gens qui sont préservés. Mais la peste vient vers eux. Et alors ils sont partis pour la campagne, pour la montagne. La montagne, j'ai tourné regain d'ailleurs, ils sont. Et il y a encore une grotte qui s'appelle la grotte des pestiférés, parce qu'ils ont habité là. Il y a encore un four de boulanger, rudimentaire, n'est-ce pas? Ils ont vécu là pendant une année. La peste s'est arrêtée. Ils n'ont pas voulu revenir. Parce qu'ils vivaient, ils avaient planté du blé, il y a encore des amandiers qu'ils avaient plantés, qui sont énormes maintenant. Ils vivaient très heureux, les enfants étaient à tout le monde, les filles étaient à tous les mâles, ils vivaient comme des papes, ils n'ont pas voulu retourner en ville. Mais un jour, le curé d'Allo est venu leur dire, mais mes enfants, vous vivez sans religion, c'est épouvantable. On lui a dit, vous ne pas nous emmerder, pas vous êtes vous. Il est allé se plaindre à l'évêque. L'évêque a alerté les autorités. Et alors, le fisc s'est amené, il ne paye pas d'impôts, etc. Ils n'ont jamais voulu redescendre. On a envoyé des troupes, ils se sont battus, ils se sont été tués jusqu'au dernier. Parce qu'ils étaient heureux, parce qu'ils étaient libres. Il y a un très beau film à faire avec ça.
C'est les camisards, enfin, c'est les cathares, ou je sais pas, enfin, c'est...
C'est westernien aussi.
Oui.
C'est
ordien. Il y a peut-être un paradoxe de l'œuvre de Pagnol. Vous avez écrit des pièces de théâtre qui sont devenues des films. Or maintenant, quand on reprend les pièces au théâtre, on les juge par rapport aux films qui sont devenus des classiques. Et Bazin disait à ce sujet qu'il partait du fait que Manon des Sources serait injouable au théâtre, ou si on l'avait joué au théâtre, ça serait devenu du cinéma théâtralisé. Et il disait, les textes de Pagnol écrits pour l'écran ne peuvent être portés à la scène qu'à la rigueur. Et il ajoutait, la forme essentielle de les pièces de Pagnol est définitivement cinématographique, toute reprise à la scène ne peut qu'en être l'adaptation théâtrale. C'est quand même, enfin, si vous voulez, il est peut-être plus Pagnol que Pagnol. Là. Je ne sais pas où je voudrais savoir.
Oui, non. Non, j'ai écrit les pièces avant de faire les films.
Oui.
Vous comprenez? Et j'ai tourné les films avec les acteurs qui avaient joué la pièce en général. Alors, quand un type a joué une pièce 400 fois, il est bien facile de faire le film. Ils savent où sont les effets.
Oui. Mais enfin, je veux dire, il voulait dire que finalement, l'essence de votre art, c'était le cinéma.
Le cinéma, c'est la forme supérieure de l'art du théâtre. C'est le moyen d'expression de l'art dramatique le plus parfait, le plus facile. C'est une chose admirable avec le gros plan. C'est admirable, les paysages et les gros plans, ce sont les deux grands éléments. Et puis le changement de décor, c'est une chose admirable qui vous fait gagner beaucoup de temps. Parce que dans une pièce de théâtre, il y a 30, 40 entrées et sorties qu'il faut faire, puisqu'il n'y a qu'un décor qui est là sur la scène. Et dans L'Arme au Camélias, par exemple, j'ai calculé, il y a 35 minutes d'entrée et de sortie qui ne signifie rien. Vous savez, je passais par hasard, « Oh, cher ami, d'où venez-vous » etc. Au cinéma, tu attrapes la scène en plein, au milieu, et puis quand elle est finie, la scène, dramatiquement. Tu as besoin de sortir, on passe ailleurs.
C'est pour lui laisser le temps de tousser, non?
Non, le cinéma, c'est merveilleux, surtout maintenant. Vous avez la couleur, moi je vais tourner en couleur maintenant, sûrement.
Je voulais vous demander, puisque si vous avez eu des cinéastes, enfin, ou si on peut appeler ça des cinéastes français qui n'ont pas toujours été d'accord avec vous, des gens comme Orson Welles, De Sica, Rossellini, vous ont toujours mis très haut. Je voudrais savoir, non pas si vous leur envoyez l'ascenseur, mais si vous aimez leurs films ou...
Ah, mais bien sûr, Robert Rossellini, oui. Je viens de voir à Monaco son prochain film, Les Actes des Apôtres, c'est admirable. Oui. C'est admirable, on doit la présenter en dehors du festival, n'est-ce pas? D'ailleurs, il ne pouvait pas concourir à ce festival parce qu'il n'a pas été joué. Il fallait absolument être passé à la télévision une fois au moins pour concourir. Mais c'est admirable, c'est un très très beau film. Et Orson aussi a fait des films admirables. Et Vittorio, lui, il a fait des mises en scène étonnantes aussi. Vittorio, il avait joué Topaz, il jouait le conseiller municipal dans Topaz à l'Italie quand il était jeune. Je ne savais pas, celui qui me dit ça, il me dit, tu sais que j'ai joué Topaz, j'ai joué le conseiller municipal. J'ai dit, pourquoi tu ne jouais pas Topaz? Il me dit, oh, je débutais, tu penses, on ne voulait pas me donner le rôle principal. C'est Umberto Palmarini qui jouait Topaz. C'était pas Vittorio. Enfin, c'est un type admirable aussi, Vittorio.
Est-ce que vous avez vu, bien sûr, mais je ne sais pas si vous pouvez nous citer quelques titres de films du jeune cinéma français. Enfin, ça vaut aussi bien de René,
à Godard, à Truffaut. Il y a deux jeunes qui sont très remarquables, c'est Truffaut et Chabrol aussi. Chabrol a du talent. Godard est un peu... Il est original, c'est un tempérament, Godard. Mais je crois qu'il changera. Mais c'est un homme qui est... Certainement, c'est un homme de cinéma, véritable. Qui a d'autres parmi les jeunes? Lelouch aussi a fait un très bon film, qui est un homme et une femme. C'est un peu un film d'opérateur, de photo, mais ça fait rien, c'est très intéressant.
Oui, parce que le dialogue, il l'escamote, lui. Hein.
Oui, il est un peu court.
Oui.
Oui, mais ça, vous savez que c'est un opérateur de cinéma.
Oui.
C'est un très brillant opérateur. Et il a fait un film qui est un triomphe en Amérique, l'homme et une femme, c'est fabuleux.
Oui.
Moi, je m'incline toujours devant le succès, parce qu'il y a toujours une raison. C'est pas par hasard quand on a un succès.
Qu'est-ce qui vous a apporté vers Zola? Parce qu'on a dit Pagnol, Giono, Daudet, la Provence, c'est normal. Mais enfin, Fernaïs, Micoulin, Zola, il y a des gens qui ont été...
Zola, oui, c'est Fernaïs, Micoulin, j'ai fait que ça, moi, de Zola. Oui. C'est parce qu'il y avait un joli rôle pour ma femme et un joli rôle pour Pellegrin. Vous savez, j'avais guère le temps d'écrire, moi. C'est pour ça que j'ai pris parfois les œuvres des autres. Parce que j'avais sur les bras ses studios et ses labos et ses agences. Il fallait payer 200 ou 250 personnes tous les mois. Mais alors mes amis venaient tourner aussi chez moi. Aris Peru venait tourner. Tino venait tourner. Quand Fernandel, quand il avait un film, il disait, je veux le tourner au studio de Marseille. Et tout à coup, il y en avait un qui se dégonflait. Hugon devait venir tourner, lui. Et puis tout à coup, 15 jours avant, il dit, je ne peux pas venir, j'ai pas trouvé l'argent pour faire le film, etc. Et alors j'ai improvisé La Femme des Boulangers, que je ne comptais pas du tout faire. Moi, j'étais parti en vacances. Le directeur des studios me téléphone, me dit, tu sais, Hugon ne vient pas, il faut que tu fasses quelque chose. Ah, oh, j'ai dit, ils sont emmerdants, enfin. J'ai téléphoné à Giono, j'ai dit, donc, genre, j'ai envie de faire un film avec La Femme du Boulanger. Il me dit, tant que tu voudras, tu n'as qu'à écrire à mon éditeur. Et j'ai fait La Femme du Boulanger, je croyais faire un court sujet. N'est-ce pas, un film de 40 minutes. Et je l'ai écrit à toute vitesse, et puis je l'ai envoyé au petit Mopi. Parce que le boulanger de Giono était petit, n'est-ce pas? Il dit, tiens, je vais faire plaisir à Mopi, ça lui fera un gros succès. Je lui envoie ça. Il arrive, il me dit, tu es complètement fou. Je n'ai pas le talent de jouer ça. C'est un film pour Rému. Je lui dis, on ne peut pas mettre Rému dans un court sujet. Il me dit, mais c'est pas un court sujet, tu l'as écrit peut-être, mais tu ne l'as pas lu. C'est un film qui va faire presque 2 heures. Alors j'ai demandé à Jules, est-ce que tu veux jouer ça? Il a dit tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai tourné La Femme du Boulanger pour meubler mes studios, pour faire marcher la baraque. Mais d'autre part, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Vous comprenez, j'avais des représentants en Belgique, en Suisse, en Allemagne, il fallait surveiller tout ça, il fallait surveiller mes distributeurs. qui étaient tous mes employés, à Lyon, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, j'avais des agences. Au Maroc, j'avais des agences aussi, en Algérie. Alors j'étais un homme d'affaires plus qu'un écrivain. Et au fond, la guerre m'a sauvé. Parce que sans la guerre, je n'aurais jamais pu écrire que pour boucher des trous.
Vous parlez de la guerre, là, et on m'a demandé de vous poser une question, pas gênante, mais enfin, c'est la fameuse question. Dans La fille du Puisatier, la version 40, il y a le discours de Pétain,
oui.
Et vous l'auriez ressorti à New York en 45 avec le discours de De Gaulle.
C'est absolument faux.
Ah bon, bah, c'est ce qu'on a. Alors là, je suis heureux que vous fassiez la vérité là-dessus, parce qu'on a dit que vous avez ressorti La fille du Puisatier en 45 à New York.
Oui.
Avec l'appel du 18 juin de De Gaulle à la place de
l'armistice. Oh là là, c'est pas vrai du
tout.
Ah bon,
alors là,
c'est faux complètement. Mais d'autre part, vous savez que cette scène du discours du maréchal, les Allemands en étaient fous furieux. Et la veille de Noël, il s'est présenté deux officiers à mon bureau de la rue Fortuny, moi j'étais à Marseille. Et ils ont dit à Corbessin, à l'ancien directeur, il faut arrêter les projections immédiatement. Corbessin a dit, monsieur, c'est la semaine de Noël, il y a 40 copies qui sont en toute la France. Vous êtes responsable, vous n'avez qu'à téléphoner. Il dit, mais on sait bien qu'on ne peut pas téléphoner. Venez téléphoner à la commandanture. Il a fallu arrêter les 40 copies tout de suite. Parce qu'il y avait une chose qui leur déplaisait beaucoup, c'était que lorsque le Pétain parlait, avait fini de parler, il y avait une femme qui disait, alors mon fils est mort pour rien, n'est-ce pas? Et Charpin, je crois, quelqu'un lui disait, les morts des batailles perdues sont la raison de vivre des vaincus, n'est-ce pas? Alors ça, les Allemands, ça ne leur plaisait pas du tout. Et alors ils ont coupé eux-mêmes, dans le négatif et dans les copies, cette scène, et après ils ont autorisé le film à passer.
Oui, non, mais je suis heureux que vous le disiez, parce que je pense qu'on ne vous l'avait pas... Moi, je ne l'ai pas bien compris. Et alors, je vous dis, après, on a dit que vous aviez à la Libération, à la ressortie du film...
Oui, ben, jamais de la vie.
D'accord, non, mais c'est...
Jamais de la vie.
C'est un très
et bon ça moment. Ne plaisait pas non plus aux Allemands pour une autre raison. C'est que quand Pétain disait qu'il faut déposer les armes, tout le monde se mettait à pleurer et sortait en pleurant. Tandis qu'ils auraient voulu qu'on dise bravo, n'est-ce pas? Je l'ai encore, cette scène. Je l'ai encore en positif, je l'ai. Je peux la faire contre-typer et la remettre pour La fille du Puisatier aujourd'hui. Parce que si vous la voyez...
C'est dommage,
on a vu l'autre jour.
Parce que les gens, le populo, applaudissaient à tout rompre cette scène.
Oui.
Oui, mais vous savez, pendant la guerre, on a accusé les gens de n'importe quoi.
Ah, c'est ça, oui, non.
D'ailleurs, moi, je suis peut-être le seul qui refusait de tourner pour les Allemands.
Oui.
Parce que, et c'est pour ça que j'ai liquidé mes studios et tout. Parce que celui qui était venu me contacter m'a dit, si vous ne voulez pas travailler pour nous, il ne faut plus travailler pour vous. Parce que, alors on m'a fait faire un certificat que je risquais de devenir aveugle parce que j'avais un petit coup d'arc sur un œil. J'ai donné le certificat, j'ai tout hasardé et je suis parti à Monaco, où il n'y avait pas d'Allemand. Sur le moment, j'étais désespéré de perdre tout ça, mais maintenant, j'en suis ravi, parce que si j'avais gardé ça, je serais ruiné complètement aujourd'hui, comme tous les studios. Comme...
Est-ce que vous avez vu les autres films tirés de Giono, je pense, soit le Crésus, que Giono a réalisé lui-même, avec Fernandel, ou alors des choses comme L'eau vive, ou Les grands chemins, ou La poursuite, qui était tirée d'un roi sans divertissement, je crois. Vous les avez vus?
Oui, j'ai vu L'eau vive, c'est pas mal, L'eau vive, c'est bien. Ça a marché, ça a eu du succès, Louis. Oui, on m'avait demandé encore d'adapter les œuvres de Giono. J'ai dit, oh non, bah, plus maintenant, j'en ai fait 4.
Oui.
N'est-ce pas? Quand je ne savais plus que faire, comme on disait, il faudrait tourner lundi. Je téléphonais à Georges, j'ai dit, donc, je vais faire un film avec ça. Hop, 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 hop.
Donc, elle est vraie, alors, l'anecdote de Fernandel qu'on rapporte, vous demandant plusieurs fois, mais alors, ce Spoons, tu me l'écris, et vous disiez, oui, ça va venir, et puis vous l'avez écrit presque au fur et à mesure. Et
ah oui, j'écrivais au jour le jour. Ouais. Et on tournait en même temps, Regain et le Spoons.
Ouais.
Avec la même troupe. Alors, ils ne savaient jamais comment venir, c'était le régisseur, il disait, demain, au studio, on tourne le Spoons parce qu'il pleut, et demain, on tourne la scène de Regain s'il fait beau, ou alors on tourne la scène-là du Spoons. D'ailleurs, les films en ont un peu souffert parce qu'on n'y comprenait plus rien. Ils mélangeaient les deux textes, n'est-ce pas? C'était le beau temps. En 36, le Spoon, c'est Regain. En même temps, les attendaient tous les deux.
Ben moi, je crois que je vous ai posé. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps.
Vous avez de quoi faire un papier.
Oui, non, mais je vous soumettrai le tout comme promis. Et
ça m'intéresse
nous
beaucoup.
Nous couperons ce que vous voulez.
Ça m'intéresse couper, beaucoup, et en même temps, ça m'effraie un peu, cette histoire. En même temps, on reprend 14 de mes films et on joue Fanny au théâtre. J'en suis stupéfait, je lui dis qu'est-ce que ça signifie, ça hein? C'est une espèce de petite apothéose, et les apothéoses, ça ne présage rien de bon. On dirait que c'est un point final.
Non, mais enfin, puisque... Non,
c'est un peu inquiétant.
Ouais. Et le château de ma mère est très avancé comme préparation de...
Oh oui, ben ça c'est facile à tourner.
Ouais, ça...
Je cherche maintenant mes comédiens, je les trouvais déjà une bonne partie. C'est un film qui me plaît à faire. Puis il faut que je le fasse maintenant parce que le château va être démoli bientôt. On va y faire des lotissements, on va y faire une petite ville. Parce qu'il y a un immense parc autour, là où je voulais faire les studios. Il y a peut-être 400 000 mètres, quoi. Et c'est clos de murs. Il y a un mur comme ça tout autour de ces 40 hectares. Mon maçon admirait ça et disait « Ce mur vaut plus cher que trois fois le château. Hein. » Il a quelque chose comme 2 kilomètres, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on ne peut même pas entretenir. C'est un architecte qui avait fait ça en 1860. C'est la copie d'un château Louis XIII. Il y a 104 pièces à feu. Bon, c'est l'hôtel que je pouvais faire. Ça aurait été... Il aurait fallu que je travaille alors avec des banques. C'est une affaire aujourd'hui qui coûterait 3 ou 4 milliards. Alors je ne la ferai jamais plus.
Vous aimez Catherine Rouvel dans
Fanny ? Ah oui.
Ouais.
Oh oui, elle est très bien Catherine.
Ouais.
Vous savez, c'est une Marseillaise, mais sa mère ou son père est grec.
Oui, et elle mérite d'ascendance italienne, je crois.
Je crois que sa mère est grecque,
ouais.
Et son père est d'origine italienne, je crois. Mais elle est charmante, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de sensibilité. Il faut la tenir un peu, parce qu'elle va toujours manger bon argent. Hein.
Vous l'avez vu dans Le Déjeuner sur l'herbe de Renoir, justement?
Non, j'ai jamais vu Le Déjeuner sur l'herbe.
Il faut le voir.
C'est un bon film.
Ah.
Il faudra que je le voie.
C'est formidable.
Il y avait aussi un très bon film de Renoir, c'était La Chienne.
Oui.
C'était Michel Simon, c'était gigantesque.
Comment se fait-il que vous n'ayez jamais, enfin, que vous n'ayez rien fait pour Michel Simon, peut-être parce qu'il était suisse? Non, mais enfin, je veux dire, de ne pas lui avoir... Vous avez quand même écrit pour des comédiens en même temps, enfin, quand on a revu Fernandel, ça a très envie d'écrire pour eux. Comment?
Il a refusé, je crois.
Ah,
je voulais lui faire tourner Merlis, il n'a pas voulu.
Ouais. Mais à l'époque ou...
Non, ces temps-ci,
mais ah, oui.
Pour la télévision. Il a dit non, moi je ne veux pas jouer un rôle fondé sur la laideur. Il a dit ça à ma femme au téléphone et il n'a pas voulu jouer. Autrement, il aurait été génial, n'est-ce pas? Wilson, d'ailleurs, aurait été très bien. Mais Michel aurait été plus pittoresque, enfin, avec cette... Puis, pour moi, c'est le plus grand acteur vivant, c'est Michel.
Oui.
Oh, oui, c'était très grand. Mais il a des idées comme ça, lui.
Marc et Rému n'aurait peut-être pas vu d'un très bon oeil que vous fassiez tourner Michel, parce qu'il n'était pas souvent d'accord, mais lui, il était très rivaux.
Oh, oui, il était trop parigot pour jouer Marius.
Oui, mais non, mais je veux dire, mais pour jouer autre chose, enfin, si vous aviez écrit quelque chose pour lui, quoi, mais bien sûr.
Vous savez, j'avais pas le temps d'écrire.
Oui.
J'avais toute cette affaire sur les bras. J'avais deux salles aussi à Marseille. Bon, j'ai vu une chose tragique à Marseille. J'avais un ami qui s'appelait Léon Bourguet qui avait deux salles, une à Marseille, une à Aix. Alors un jour, pendant la guerre, il vient dîner chez moi et il me dit, il faut que je téléphone pour savoir s'ils ont, à quelle heure ils vont finir. Il y avait le couvre-feu, il fallait avoir fini à 11h. Il téléphone. En 11h, il restait encore à passer une mobile et demie. Alors il engueule tout le monde au téléphone, on lui dit c'est l'appareil qui ne tourne pas à la vitesse voulue, parce qu'on avait le programme, n'est-ce pas, métré. Bon, il me dit, prête-moi deux types de studio pour aller vérifier l'appareil de projection. Alors j'envoie mon type du son, et un ingénieur électricien, ils vont voir l'appareil là-bas. Ils reviennent, ils me disent, monsieur, on ne sait pas à combien il tournait, mais maintenant il tourne pile à 24, n'est-ce pas, il est parfait, bon. Bourguet s'en va à Aix, voir sur notre salle. On finit encore à 11h20, avec la police allemande, enfin, qui venait faire un malheur, parce qu'on finit, c'est trop tard. Alors on fait une enquête et on découvre ceci, qui est atroce. On avait oublié, dans le film qu'on projetait, une bobine du film précédent. Et le public n'a jamais rien dit. C'est extraordinaire. Moi, quand je faisais du montage, je disais, dites donc, il fallait, il y a quatre images à couper, hein, parce que, ou à rajouter. On leur foutait une bobine au milieu avec d'autres acteurs d'une autre histoire. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas sifflé. Ça n'a duré que trois jours. Peut-être qu'à la longue, il y a quelqu'un qui s'en serait aperçu. Mais enfin, c'est un peu décourageant.
Ouais. C'est-à-dire que si on revient à Hamlet tout à l'heure, on peut faire jouer Hamlet, puis on leur projette Macbeth,
au milieu. Une bobine de Macbeth au milieu d'Hamlet. Il y a des snobs qui diraient c'est prodigieux, c'est intéressant.
Un digest. Non, ben, je crois qu'on peut en clore là. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis, je vous soumettrai tout ça. Alors,
Comme vous l'envoyez par la poste tout de suite.
Oui, bah, enfin, on va le décrypter le plus rapidement possible. Et puis, vous êtes à Paris pour quelque temps.
Oh, oui, oh, oui, oui. Bon, maintenant, oui. Il faut que je reste à Paris. Oui. Pour l'académie, pour des tas de choses, pour les prix d'académie. Bon, je fais partie des 36 commissions à l'académie. C'est la commission de poésie, la commission du roman, la commission du machin. Bon, il faut que j'y arrive. Oui.
L'académie remplace votre rôle d'homme d'affaires du cinéma. Enfin,
c'est beaucoup moins
d'écrire aussi.
Oh non, c'est beaucoup moins affreux comme travail. C'est amusant. On discute, on est 4 ou 5. On a trouvé un livre de poèmes, on en parle aux copains, on leur dit, on lui donne un prix, on lui donne pas. Enfin, c'est amusant. Plus que maintenant, je suis dans trop de jurys. Oui. Commence à démissionner des jurys parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Je reviens de Monaco, où j'ai été nommé président du jury écuménique du film religieux. J'ai accepté parce que ça m'intéressait vivement. Il y avait des prêtres et des pasteurs protestants dans ce jury. Et moi, il m'avait nommé président pour que je sois impartial, enfin, n'est-ce pas? Peut-être aussi que les prêtres n'auraient pas aimé avoir un pasteur comme président, ou les pasteurs n'auraient pas aimé, je ne sais pas, enfin, c'est pas pour mes mérites exceptionnels qu'on m'a offert cette présidence. J'avais des films très remarquables, vous savez. C'était tous des gens remarquables, tous ces gens. Ils ont été très fraternels entre eux. Ouais.
Janvier pour le numéro quand
1939. Un peu, quoi.
À la fin de ce festival, il s'est passé, j'ai fait une gaffe ridicule. Il y avait une séance solennelle de clôture, n'est-ce pas? Alors j'ai fait un discours comme président, puis il y a des membres du jury qui ont parlé, puis il y a un pasteur allemand. Moi j'avais fini de mon discours, j'étais venu m'asseoir dans le public au premier rang, qui parle en allemand. Tout le monde avait des écouteurs. Moi je comprends traduisais, vous savez, les discours en langue étrangère. Moi, j'en avais pas mis, j'en avais assez, j'étais reparti. C'était le dernier jour. Et tout à coup, ce pasteur parle avec une éloquence foudroyante en me regardant. Tout le monde se met à applaudir, et moi j'applaudis. Et mon voisin me dit, con, applaudis pas, il parle de toi. Je savais plus où me mettre. Il faisait mon éloge, le pasteur protestant. Les gens devaient me prendre pour un couillon, enfin ça s'est fait.
Vous venez d'entendre un entretien avec Marcel Pagnol au micro de Claude Gauteur en 1969. Une archive de la collection Archives sonores du cinéma français de Philippe Esnault, diffusée en juin 1973.